Chapitre 16. La grande saga du petit écran. La télévision. Dans ce chapitre, la naissance de la télévision, séries et émissions cultes, les jeux télévisés, festivals et récompenses. Et dire que la télévision dans chaque foyer ou presque nous semble aujourd'hui une évidence. Après des débuts très rapides sur le plan scientifique, la télévision tarde à s'imposer. Les récepteurs de télévision, devenus la télévision puis la télé, sont bien peu nombreux jusqu'au milieu des années 1960. Mais depuis, quel succès! Revivons ensemble les grands moments du petit écran. De Star Trek à Dallas, en passant par 5 colonnes à la une ou les mythiques dossiers de l'écran, puis à cette télévision de distraction tout autant que d'éducation, substituons notre bonne vieille culture générale, héroïne des jeux télévisés depuis des chiffres et des lettres, jusqu'au très fructueux « Qui veut gagner des millions ?». Mais si l'argent ne vous intéresse pas, il restera la gloire. Nous irons assister au Festival de Biarritz et à la remise des rutilancettes d'or. Prêt à sauter dans le bocal télévisé ? La naissance de la télévision. Les premiers essais pour transmettre une image à un récepteur datent de la fin du XIXe siècle. Toutefois, la télévision est une invention du XXe siècle qui se développe à une grande allure depuis l'iconoscope de 1923 jusqu'à la première transmission d'émission en 1926. Mais si la mise au point est très rapide, la télévision demeure cependant rare les 40 années suivantes. Elle équipe pour l'essentiel les administrations à quelques dizaines puis centaines d'exemplaires. Il faut attendre l'explosion économique des Trente Glorieuses entre 1945 et 1975 pour qu'elle devienne peu à peu un objet de consommation de masse. Les premières transmissions. C'est en 1923 que le chercheur V. R. Zvorykin fait breveter un tube de caméra, l'iconoscope. Il s'agit d'un tube muni à l'intérieur d'un écran qui permet la transmission des images. Mais il faut attendre le tube cathodique, inventé en 1897 par Ferdinand Braun, et ses perfectionnements pour pouvoir faire passer un nombre plus grand de lignes. En janvier 1926, l'inventeur John Baird présente à Londres son procédé de réception d'images sur l'appareil qu'il nomme « télévisor ». À peu près à la même époque, Zvorykin a perfectionné son système et, lui aussi, présente un téléviseur en novembre 1929, auquel il donne le nom de « kinescope ». Les gouvernements s'intéressent tout de suite à la télévision et dès 1927 en France et 1928 au Royaume-Uni, des services spécialisés sont créés, placés sous l'autorité de tutelle des postes et télécommunications. En France, c'est l'ingénieur René Barthélémy qui réalise le 14 avril 1931 la toute première transmission télévisée entre l'École supérieure d'électricité de Malakoff et Montrouge. Ce n'est pas encore tout à fait une émission de télévision. Il faut attendre les résultats de l'impulsion donnée aux recherches par Georges Mandel, ministre des PTT depuis 1934, pour que le 26 avril 1935, la première émission officielle de télévision française soit retransmise depuis le ministère, rue de Grenelle, à Paris. Les premières émissions. Les premières émissions de télévision sont le fruit de la création des compagnies de télévision. Dès 1927, naissent au Royaume-Uni la British Broadcasting Corporation, célèbre BBC, et aux États-Unis la Columbia Photographic Broadcasting System, future CBS. La première vraie vedette, c'est le chat Félix en 1928 à New York. Dès 1930, la BBC commence à diffuser régulièrement des émissions. En 1935, les premières émissions commencent à raison de 3 par semaine en Allemagne et, suivant une programmation régulière en France, une demi-heure chaque soirée en 1937. En 1936, on compte à travers le monde environ 2000 récepteurs de télévision. La Seconde Guerre mondiale n'interrompt pas le progrès puisque c'est en 1940 qu'un système de télévision couleur est mis au point par un ingénieur de CBS.
N'oubliez pas. Le théâtrophone de Clément Ader. Les premiers spectacles à distance ne sont pas vus. Il faut pour cela attendre les années 1930. Mais écoutez, grâce au théâtrophone de Clément Ader, et ce dès 1881. Le théâtrophone est un système qui permet de diffuser des concerts et des pièces de théâtre, depuis la Comédie française, l'opéra ou l'opéra comique. La toute première retransmission est faite en l'honneur du président de la République, Jules Grévy, en novembre 1881. Muni de 2 écouteurs, le président entend un spectacle donné au même moment à plusieurs kilomètres de là. D'autres illustres personnages expérimentent le théâtrophone comme Victor Hugo, qui dans « Chose vue » relate la séance du 11 novembre 1881. Nous sommes allés avec Alice et les deux enfants à l'hôtel du ministre des Postes. À la porte, nous avons rencontré Berthelot qui venait. Nous sommes entrés. C'est très curieux. On se met aux oreilles deux couvre-oreilles qui correspondent avec le mur et l'on entend la représentation de l'opéra. On change de couvre-oreille et l'on entend l'opéra comique. Les enfants étaient charmés, et moi aussi.
Les séries cultes. À partir des années 1960, une fois la télévision entrée dans une majorité de foyers, il reste à fournir des émissions propres pour fidéliser le public des nouveaux téléspectateurs. C'est ce que parviennent à faire deux séries américaines qui vont faire le tour du monde, Star Trek et Dallas. Star Trek. Star Trek est une série de fiction relatant les aventures de James Kirk, capitaine du vaisseau spatial Enterprise, parti explorer l'univers au XXIIIe siècle afin de découvrir de nouvelles formes de vie. Les épisodes, au nombre de 79, durent chacun 45 minutes et couvrent trois saisons de 1966 à 1969 sur le réseau NBC. La mission de l'Enterprise, supposée s'étaler sur 5 années, est aussi l'occasion de montrer des personnages appartenant aux communautés noires, asiatiques et même un extraterrestre en la personne du vulcanien Monsieur Spock, proche toutefois de l'équipage car si son père est de Vulcain, sa mère est une terrienne. Il incarne les difficiles choix entre la logique, absolue pour tout vulcanien, et l'expression des sentiments, souvent préférée par les humains. En 1987, la série Star Trek, La Nouvelle Génération, est lancée. Une autre, au titre proche, Star Trek Voyageur, est diffusée entre 1995 et 2001 sur le réseau UPN. Cette fois-ci, le vaisseau Voyageur est sous les ordres de la capitaine Catherine Janeway. Envoyé à l'autre extrémité de la galaxie, Voyageur tente de retrouver son chemin vers la Terre au travers de multiples aventures. Au total, l'univers Star Trek représente plusieurs séries télévisées différentes et 10 films. Des fans se réunissent pour célébrer ce monde, mesurer leurs connaissances et jouer à des jeux de rôle, sous le nom de Trekkers ou Trekkies. Dallas. Avec Dallas en 1978, c'est un tout autre univers, impitoyable comme le martèle le générique, qui est offert aux téléspectateurs avec les tribulations de la richissime famille Ewings dans leur ranch de South Fork, au Texas. Diffusée sur CBS, la série illustre des caractères forts et bien trempés avec l'épouvantable JR, l'alcoolique Swellen et le gentil Bobby qui deviennent très vite des hôtes familiers des foyers occidentaux. Argent, sexe et pétrole sont le prétexte de tous les coups fourrés et des plus lourds secrets de famille. Le succès est tel que, prévu pour 5 épisodes à l'origine, la série dure 13 saisons jusqu'en 1991. La diffusion devient planétaire et captive des centaines de millions de téléspectateurs. Le film tiré de la série est en cours de tournage sous le titre Dallas, réalisé par la réalisatrice britannique d'origine indienne Gurinder Chadha avec John Travolta dans le rôle de JR. Les émissions cultes. La télévision française dès ses débuts se donne pour but d'informer et de débattre. Nous allons ici passer en revue 2 émissions qui ont fait date. La première, 5 colonnes à la une, qui est le premier magazine d'information, et la seconde, les dossiers de l'écran, qui à partir d'un film propose un débat entre spécialistes animé par un journaliste qui joue un peu le rôle de Candide pour mieux permettre la compréhension de tous. 5 colonnes à la une. Le magazine d'information 5 colonnes à la une naît en 1959 de la volonté d'un groupe de journalistes. Aux commandes de cette aventure, on trouve Pierre Lazareff qui est le directeur de France Soir et le créateur du magazine hebdomadaire Elle, mais également Pierre Desgroupes, à la fois journaliste, futur patron de l'information sur la première chaîne, réalisateur et président d'Antenne 2 de 1981 à 1984, et Pierre Dumayet, journaliste, écrivain, scénariste et pionnier de l'information télévisée, et enfin Igor Barrère, docteur en médecine et journaliste de l'information télévisée à l'ORTF depuis 1954. L'émission débute avec les difficultés de la guerre d'Algérie à laquelle elle se consacre. Présentée par Pierre Desgroupes, Pierre Dumayet et Igor Barrère, Elle est diffusée le premier vendredi de chaque mois sur la seule chaîne existante en noir et blanc. La première a lieu le 9 janvier 1959 et la dernière après mai 68 au 103e numéro. Le principe de l'émission repose sur un ou plusieurs reportages analysés et commentés par les présentateurs avec une grande objectivité, ce qui tranchait sur le journal télévisé contrôlé alors par le ministère de l'Information. Les dossiers de l'écran. Les dossiers de l'écran est une création d'Armand Jameau, diffusée de 1967 à 1991 et présentée selon un principe immuable. D'abord la projection d'un film, suivi d'un débat consacré au thème abordé par l'œuvre. L'émission a lieu deux mardis par mois et traite des sujets de société de la vie quotidienne jusqu'à la mémoire historique. Elle est aussi très connue pour son générique tiré de la bande-son du film « L'armée des ombres ». À la limite de l'angoisse, cette musique provoque chez le téléspectateur une prise de conscience de l'attention demandée par le débat à venir. En 2005, la chaîne TPS Star a repris le principe des dossiers de l'écran avec l'émission intitulée « Le film et on en parle, un samedi par mois ».
N'oubliez pas, les 36 chandelles de la Variette. Jean Nohain, de son vrai nom Jean-Marie Legrand, est affectueusement surnommé « Jaboun » par les téléspectateurs. Parolier, notamment de la chanteuse Mireille, il est aussi le pionnier des émissions radiophoniques pour la jeunesse avant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, il présente la très populaire émission « 36 chandelles », qui fait découvrir au public de nouveaux talents comme Thierry Leluron et des artistes confirmés comme Luis Mariano ou Maurice Chevalier. L'émission dure de 1953 à 1959 et est diffusée en direct, entre 20h30 et minuit, depuis la scène de Grand Théâtre parisien. Avec ses 135 émissions, la variété familiale se prépare une place de choix dans le futur paysage audiovisuel français. La voie est ouverte et d'autres émissions musicales suivront, dans des genres très différents, comme celui très feutré et conceptuel de Discorama, animé par Denise Glaser entre 1959 et 1973. Celui ouvert à une jeune génération qui s'exprime enfin d'âge tendre et tête de bois, avec Albert Reissner de 1961 à 1966, ou La chance aux chansons de Pascal Sevran, qui est le plus familial et teinté de nostalgie. Signalons aussi la grand-messe du samedi soir qu'ont longtemps constitué les émissions de variété comme Numéro 1, Champs-Élysées et autres grandes farandoles, Sacha Chaud et Top A.
Les jeux télévisés. La télévision a beau être avant tout pensée comme un vecteur d'information, elle ne s'en intéresse pas moins au divertissement et ce dès ses débuts. Elle propose notamment assez vite des jeux télévisés. Deux pionniers parmi eux sont les inoubliables émissions « La tête et les jambes » et « Interville ». Et, sur le sujet, impossible de passer à côté des chiffres et des lettres, qui restent une des valeurs les plus sûres de la grille des programmes. Enfin, pour marquer l'entrée dans l'ère des jeux télévisés à enjeux principalement financiers, nous évoquerons « Qui veut gagner des millions ?» La tête et les jambes. La tête et les jambes commencent en 1960 sur l'unique chaîne de l'époque. Le principe du jeu est d'associer un candidat apte à manier des connaissances, auquel sont posées des questions de culture générale, et un sportif qui doit l'aider en cas de défaillance. Dans ce cas, le sportif doit réussir une épreuve physique. Le ton sympathique de l'émission, parfois ironique, présentée par Pierre Belmar, veut contribuer à réconcilier les intellectuels et les manuels. Interville. Interville naît en 1962, selon un principe simple. Deux villes s'affrontent au cours d'une série d'épreuves d'adresse physique, d'agilité et de vachette landaise à éviter. La culture générale est également présente, une série de questions est posée aux membres de chacune des équipes. Bon enfant et populaire, le spectacle d'Interville donne une occasion à la télévision de faire un tour de France des provinces et d'illustrer à chaque fois les folklores locaux, les traditions, les légendes. Une véritable carte postale de la France en quelque sorte. Le succès de l'émission donna naissance à Jeux sans frontières, reposant sur le même principe, mais opposant des équipes représentant des pays différents.
N'oubliez pas, c'est Papy Mougeot. Le Schmilblick est un jeu télévisé diffusé à partir de 1969, dont le nom, volontairement difficile à prononcer, vient d'un objet imaginaire inventé par Pierre Dac dans les années 1950. Un objet est dissimulé dont il faut deviner le nom peu à peu. Pour avoir le droit de faire une proposition, le candidat doit au préalable répondre à une question posée par l'animateur Guy Lux. Une aide lui est fournie par la photo du Schmilblick, mais prise en si gros plan que l'objet n'est pas reconnaissable. La France se passionne pour le Schmilblick. Pour rien au monde, les téléspectateurs ne veulent manquer la demi-heure d'émission quotidienne, en direct de 18h30 à 19h, dans une ville différente chaque jour. Elle alimente le lendemain matin toutes les conversations et fait naître les spéculations les plus folles. En 1975, l'humoriste Coluche en donne un sketch hilarant. L'action se déroule à Cajarc, petite localité de l'Aveyron. Devant un Guy Lux au bord de la crise de nerfs, on assiste au défilé d'une savoureuse galerie de portraits. Monsieur Moulineau qui fait la réclame de son magasin d'articles de pêche. Émile Duboudin, compagnon de la Libération, qui voit en le Schmilblick un planqué qui n'a pas fait 39-40. Wala Zaïm Ben Salem, auquel Guy Lux dit malencontreusement « Monsieur a été coupé ». Et surtout, l'inénarrable Papy Mougeot, qui se présente à plusieurs reprises et ne parvient jamais, en dépit d'efforts répétés, à prononcer le terrible mot de Schmilblick.
Des chiffres et des lettres. Des chiffres et des lettres, émission d'Armand Jameau, producteur et scénariste également auteur des dossiers de l'écran, succède en 1972 au mot le plus long. Désormais, les candidats doivent former un mot, le plus long possible, à partir de 9 lettres tirées au sort. Pour la partie du jeu consacrée au compte est bon, les deux candidats disposent de 6 nombres parmi ceux de 1 à 10 et 25, 50, 75 et 100. À partir du tirage, en combinant les opérations de base comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, le but est d'obtenir le nombre demandé ou, à tout le moins, de s'en approcher le plus possible. En cas d'égalité, les deux candidats sont départagés par un duel qui peut revêtir plusieurs formes, soit des opérations rapides de calcul mental, soit trouver l'orthographe exacte d'un mot épelé, ou bien trouver deux mots à partir de 9 lettres se rapportant au même thème, etc. L'engouement pour le jeu qui ne se dément pas depuis 1965 se poursuit lors de compétitions opposant entre eux les meilleurs joueurs, les champions lors du tournoi de Monte-Carlo, de Masters ou de la Coupe des clubs. Le jeu est également décliné en jeu de société et en version pour ordinateur. Qui veut gagner des millions ? Qui veut gagner des millions fait entrer le jeu télévisé dans une nouvelle ère, celle des gains fabuleux. Inspiré d'un concept britannique, l'émission repose sur un questionnaire qui permet aux candidats à chaque bonne réponse de gagner plus d'argent, jusqu'à une somme de 1 million d'euros. Les 15 questions, qui portent toutes sur la culture générale, entretiennent un suspense de plus en plus haletant dans la mesure où chacune marque un palier dans le gain. Ainsi, les gains s'échelonnent de 200 à 1500 euros, puis de 3000 à 48 000 euros, enfin de 48 000 euros à 1 million d'euros. Pour chaque question, 4 réponses possibles sont proposées. Le candidat dispose de 3 jokers, appeler un ami au secours, suivre l'avis du public et éliminer 2 réponses sur 4. Il peut également switcher, c'est-à-dire éviter une question à partir de la 6e. La question éliminée est remplacée par une autre aussi difficile. Le succès est si énorme que le jeu existe dans une 50aine de pays au monde. Festival et récompenses. La télévision touche de nombreux arts. Le cinéma, les spectacles de théâtre, de danse, d'opéra auxquels il convient d'ajouter ses propres programmes de création. Elle se devait donc, à l'imitation des autres formes créatives, d'avoir son festival et ses cérémonies de récompenses. Entrons donc dans le monde magique des grands moments de télévision avec le Festival international des programmes audiovisuels, FIPA, et les 7 d'or. Le FIPA. Le Festival international des programmes audiovisuels, ou FIPA, est créé en 1987 par le réalisateur français d'origine bulgare, Michel Mitrani, qui le préside jusqu'à son décès. Sa volonté est de donner aux films produits par la télévision une notoriété et une reconnaissance comparable à celle recueillie par les films destinés aux salles de cinéma. Le festival se tient d'ailleurs à l'origine également à Cannes, avant de s'installer à Biarritz. Il se veut un lieu de récompense, certes, mais aussi d'échange et de débat sur la formation de tous ceux qui se destinent à une carrière à la télévision. Suivant diverses catégories comme les téléfilms, les séries, les essais, les grands reportages, les documentaires, etc., les prix sont décernés sous forme de FIPA d'or ou FIPA d'argent pour récompenser la meilleure interprétation féminine ou masculine, le meilleur scénario, la meilleure musique originale. Après le décès du fondateur, un prix Mitrani a été créé. Il est attribué au lauréat sous la forme d'un makila, bâton traditionnel basque à pommeau métallique et bout ferré. Les 7 d'or. Depuis 1985, les 7 d'or permettent à un jury de 2000 professionnels de la télévision, ainsi qu'aux téléspectateurs qui souhaitent prendre part au vote, de départager les meilleurs programmes télévisuels. Retransmise en direct, la cérémonie des 7 d'or a lieu en octobre. Pour chaque récompense, une liste de nominés est en compétition dans plus de 50 catégories. Les plus connues sont celles du meilleur animateur ou de la meilleure animatrice, du meilleur téléfilm, de la meilleure série, française ou étrangère, du meilleur reportage. Très populaire, la cérémonie permet surtout aux téléspectateurs de voir un grand nombre de vedettes du petit écran au cours de la même soirée.